On en jase jusqu'à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1 à venir au programme. On va avoir une entrevue avec Élanie Lepage, nouvelle conseillère municipale dans Saint-Roch-Saint-Sauveur. Mais avant, on va aller rejoindre notre chroniqueur, un de nos chroniqueurs qui est l'autre deux semaines, les mardis et jeudis aux alentours de 13h, à qui on adore parler, Rémi Villemur du 99.5 Montréal. Rémi, comment vas-tu?
Ça va super bien, vous deux.
Ça va très bien. Rémi, ici à Québec, on a pratiquement battu un record. On a eu un taux de participation le plus élevé aux élections municipales depuis 2013. Et c'est pas surprenant parce qu'on avait vu ça comme une élection tramway ou pas de tramway. Finalement, la surprise générale, Bruno Marchand, 18 conseillers, 50 % des votes. Si tu mets les pro-tramway ensemble, ça fait à peu près 60 % du vote. Fait qu'enfin, Rémi, j'ai fait un crochet. J'ai dit, je n'ai plus besoin de parler de ce sujet-là en onde. Mais là, à Montréal, vous n'aviez pas grand sujet à parler puis ça n'a pas soulevé passion, c'est ça que je comprends?
Ben écoute, concernant les sujets, ça dépend des goûts. Là. Moi, je pense que c'était une élection importante puis qu'il y avait beaucoup d'enjeux sérieux. Reste à voir si les enjeux les plus sérieux ont été placés au devant de la scène. Mais moi, j'ai été subjugué, le flabbergasté, quand j'ai compris que le taux de participation, qui n'est pas encore officialisé, ben, il se dessine pour être plus faible qu'en 2021. Alors même qu'on nous présentait cette élection-là comme étant une élection importante, qui allait enfin avoir... Parce que, pour rappeler, là, à la dernière élection municipale à Montréal, c'était les deux mêmes candidats qui s'étaient affrontés à l'autre élection avant, Valérie Plante et Denis Coderre. Donc, lorsque Valérie Plante s'est représentée pour l'emporter la deuxième fois, tu sais, il y avait peut-être une... entre guillemets, une bonne raison de ne pas aller voter. Parce que si vous n'étiez pas intéressé par la mouture, les deux candidats, ben vous aviez été, vous étiez plus impressionné une deuxième fois. Mm-hmm. Mais là, cette fois-ci, Denis Coderre n'était pas là, Valérie Plante n'était pas là. Il y avait deux nouveaux candidats qui se présentaient. Et pourtant, ben c'est ça, c'est en bas de 40 %, ça c'est sûr. Puis il y a des gens qui disent que c'est 35 %. Donc, ça serait encore plus bas qu'en 2021. Et je n'ai pas encore entendu... d'explications qui me convainc. Les gens disent, les élections municipales, ça intéresse moins le monde, il n'y a pas fait beau, ça devrait être en même temps que l'élection provinciale, on devrait peut-être inciter les gens à voter de chez eux. Mais je rappelle une chose, on n'arrête pas de dire, quand par exemple la CAQ va de l'avant avec des politiques identitaires, que la CAQ passe à côté de ce qui préoccupe vraiment les gens. Hein, on l'entend souvent, ça. Ouais. Hein? Il y a même des sondages qui mesurent les intérêts de la population. Puis on dit, puis souvent l'opposition face à des politiques plus identitaires disent « Hey, les Québécois ne veulent pas entendre parler de ça. » Bien, si les Québécois veulent entendre parler d'autres choses, par exemple, du coût de la vie, du logement, de transport, pourquoi le jour des élections ne vont-ils pas voter?
Alors que c'est les sujets du municipal.
Bien, moi, je me demande, puis je m'attendais à te poser cette question-là, Rémi. Je me dis, Colin, je ne vis pas à Montréal. Tu sais, à un moment donné, je ne veux pas faire la fille qui regarde de loin puis commande quelque chose qu'il ne sait pas. J'y vais une fois par deux mois, peut-être. Puis je me dis, crime à Montréal, là, au sujet de l'immigration, de la... Peut-être qu'il y a des ordures, parce que moi, j'ai pogné des journées où c'était épouvantable. La circulation, les travaux, tu sais... Tout ce qui est en jeu au quotidien Montréal pullue de ça. Il y en a un puis un autre, puis ça s'est exacerbé dans les dernières années. Fait que je me dis, ah, crime, ils vont être contents, là. C'est leur place, c'est leur chance d'aller aux urnes. Ils ont chialé sur Valérie Plante pendant des années. C'est-tu parce qu'il pour eux, ils voulaient lancer un message de il y avait rien qui nous était présenté qui nous satisfaisait? C'est-tu un coup d'État, si on veut, de citoyen?
Non, moi, je pense que c'est parce que ce qu'on dit que le peuple aime, et il faut toujours remarquer qui dit ces choses-là, qui dit que le peuple aime quelque chose, ça me rappelle la phrase de René Lévesque, je me méfie des gens qui disent aimer le peuple, mais qui n'aiment rien de ce que le peuple aime. Mais quand on dit que le peuple, prenons Montréal, veut parler de logement, veut parler de route, veut parler de mobilité, mais que le jour du vote, ils ne vont pas voter parce que dans une élection... celle-ci qui vient de se produire, on n'a pas parlé de langue, on n'a pas parlé d'immigration. Ah, on n'a pas parlé de ça, là. On n'a pas parlé... Il n'y a personne qui a pris position contre les prières de rue parmi les trois partis qui étaient en liste pour l'emporter. Bien là, peut-être qu'il faut peut-être faire la dure réalisation de la réalité. Le peuple aime peut-être ce que les gens lui proposent souvent. Et regarde, la CAQ a été élue en 2018 et en 2022 sur la base de politiques identitaires. C'était la preuve qu'on voulait entendre parler de ça. Donc, peut-être que ça explique en bonne partie le manque d'intérêt pour la politique municipale à Montréal. En tout cas, je n'ai pas entendu cette explication-là, puis c'est peut-être la seule qui me convainc jusqu'à présent.
Oui, c'est un bon point, exactement. C'est que, assurément, que les candidats à la mairie, la nouvelle mairesse Soraya Martinez-Ferrada, n'ont pas été capables d'aller frapper justement sur des sujets qui vont venir soulever la passion ou qui vont venir justement créer un sentiment assez fort pour aller voter chez les Montréalais. Rémi, avant qu'on parle de Zoran Mamdani, je veux juste entendre sur la grève à la STM. Oui. Ça doit être le bordel là, dans votre ville. Là. Ça n'a aucun sens. Puis en fin de semaine encore, il n'y aura pas de service samedi. Comment la population se débrouille? Parce qu'à Montréal, le transport en commun, on s'entend, c'est la source première de déplacement pour une très grande majorité de la population.
Ben, la population se débrouille pas très bien avec ça parce que c'est pas tout le monde qui a une voiture, c'est pas tout le monde qui a le courage de rouler en vélo quand il fait un degré, parfois en bas de zéro à l'aube. Je le sais parce que quand je vais travailler le samedi à 8 heures, j'arrive au studio à 6 heures à Griffintown, puis je pogne un vélo, je pogne l'erreur à chaque fois de prendre le vélo plutôt que la voiture, puis il fait fret. Donc, moi, j'ai une pensée. Pour les gens qui travaillent dans des jobs pas bien payés, des ouvriers, des proposés aux bénéficiaires, des gens qui habitent très loin de leur lieu de travail et qui doivent tout simplement prendre un taxi, prendre un Uber, qui doivent marcher, qui doivent s'arranger pour faire du covoiturage, ces gens-là, ils sont pénalisés. Vous savez, c'est très, très, très dérangeant. Au niveau de la logistique d'une journée, au niveau de la planification, puis c'est aussi très contradictoire parce qu'on n'arrête pas de nous dire que c'est l'avenir, le transport en commun. Et j'ai bien peur, moi, que cette crise-là, cette autre crise-là qui afflige la STM, ça fasse comme la pandémie, c'est-à-dire que ça change les comportements des gens. Si vous achetez une carte mensuelle qui vous coûte 90 $ parce que vous n'êtes pas étudiant puis vous n'êtes pas une personne aînée, et que là, vous venez de vous faire dire ben, « ça ne servira presque à rien, cette carte-là », et là, il y a une autre grève qui s'en vient, mettons. Mais à un moment donné, vous allez juste dire, c'est pas compliqué, moi, je m'achète une voiture. Je m'achète une voiture ou moi, regarde, je prends plus le transport en commun. Et on veut que les gens développent ces habitudes-là. Mais on l'a vu durant la pandémie que lorsqu'on change durablement, et durablement, ça veut dire de façon peut-être pendant des mois, souvent, des perspectives, ben, les gens s'adaptent. L'être humain s'adapte et là, ben, il va peut-être pas s'adapter dans le bon sens.
Moi, j'ai une prétention de croire qu'il faut vraiment là, qu'on prenne le temps de s'attabler aux faits. Puis je comprends que le tribunal administratif du travail a plaidé que c'était pas quelque chose d'essentiel. Hein. Mais quand vient le temps de faire la grève, puis je comprends ces employés-là, ils ont droit d'être en désaccord avec bien des choses, leurs conditions, puis de le crier haut et fort. On est en démocratie, c'est un droit pour tous et chacun dans un certain encadrement. La chose est que ça devrait être un service essentiel. Puis là, on est rendu aussi au point à se dire que dans des fins de semaine comme ça à Montréal, quand il n'y a pas de transport en commun, quand c'est la façon d'articuler la ville, en plus que ben, dans les constructions, on a parlé. Des fois, ça te prend 15 minutes pour faire deux coins de rue, puis c'est le cas de le dire. Ça vient paralyser tout ce qui est... je sais qu'on va dire, on va aller trouver toujours un chemin, mais ambulance, pompiers, policiers, la façon de faire rouler la ville est mise à risque par cette stagnation-là, cette impossibilité-là de faire tourner l'île de Montréal avec les transports en commun. Moi, ça m'inquiète aussi pour ceux qui ont que ça comme transport et qui doivent aller travailler dans les hôpitaux. Puis on l'a vu ici à Québec, il y a eu beaucoup de gens qui ont réussi par des pages Facebook à s'arranger entre eux, mais Québec n'est pas encore ce qu'est Montréal, dans le sens où on ne parle pas nécessairement à nos voisins, mais on se parle encore un peu plus que ce que Montréal fait, donc on essaie de s'arranger entre nous quand ça arrive. C'est un plus petit village, comme certains disent, mais moi, c'est la question demeure, pourquoi c'est pas encore un service essentiel, le transport en commun? Ça vient tellement ankyloser là, quand il vient le temps d'une grève.
Oui, puis tu sais, moi je regarde les revendications, là. Tu fais bien de le dire, Pascal, les gens ont le droit de faire la grève, ils ont le droit de faire valoir leurs droits, hein? C'est un peu tautologique comme formule, sauf que je regarde les chauffeurs d'autobus là, de la STM, il y en a qui gagnent près de 200 000 $
J'allais dire, les riches...
Chauffer un autobus, là, ça devrait pas être... C'est pas chauffer un avion. Là.
J'allais dire, les riches qui font la grève pour foutre le bordel aux plus défavorisés.
Ouais, ben les riches. Les chauffeurs d'autobus, les riches, ben, c'est parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus payés qu'on le pense. Tu fais bien de dire les riches, parce que quand on explore, puis les chiffres sont publiés une fois par année, le temps supplémentaire, les chauffeurs, ils courent pour en faire, puis quand ils en font, ben ça monte à 100 à 150 000 $ Puis il y a l'enjeu aussi de... la sous-traitance. Il y a beaucoup d'employés d'entretien qui disent on est écœuré là, que la STM engage des firmes privées. Puis Marie-Claude Léonard, qui est à la tête de la STM, s'est défendue en disant oui, mais ça prend une expertise, puis ils ne l'ont pas. Bon, j'achète un peu moins cette explication-là. Une expertise, ça se donne, ça s'apprend, ça s'enseigne. Sauf que plus vous allez en grève, moins vous donnez du sens au fait que vous plaignez que votre employeur fait appel à de la sous-traitance. Il y a peut-être le choix, il n'y a peut-être pas le choix de faire appel à de la sous-traitance si vous êtes tout le temps en grève, là.
Rémi, moi, je regarde beaucoup la jeunesse. Je regarde comment elle vit. Puis je me suis concentré là-dessus dans la dernière campagne électorale à Québec parce que je me suis dit, je veux voter pour un maire qui va me proposer une vision dans 15 ans. Pour ces jeunes-là qui vont bâtir des familles, qui vont justement faire en sorte que Québec va rayonner. Est-ce qu'à New York, on est en train de vivre un tournant justement sur comment la jeunesse veut vivre ou ce n'est que passager, ce courant Zoran Mamdani?
Ah, c'est une très bonne question, mais je suis obligé de te dire, je ne peux pas répondre à ça. J'en sais rien. On verra déjà s'il est élu, puis on verra comment ça se passe, puis si dans 4 ans, les gens, ils trippent là-dessus ou s'ils ne veulent pas tout simplement s'en débarrasser. Mais moi, ce que je remarque, c'est que quand on dit que le monde est plate, puis qu'il ne se passe rien, puis que c'est du pareil au même, puis que l'histoire ne fait que se répéter, bien, il y a des choses qui changent quand même au passage. New York, hein, qui est le deuxième endroit dans le monde après Israël où il y a le plus de Juifs, est sur le point d'élire son premier maire musulman, un maire qui n'a pas dénoncé le massacre du 7 octobre par le Hamas, un maire qui n'a jamais été vraiment capable de dénoncer non plus l'expression « intifada mondiale ». Donc, au-delà de la question israélo-palestinienne, c'est symboliquement, c'est assez fort quand même, parce que New York, c'est Seinfeld, c'est toute cette communauté juive qui est installé là, qui est enraciné là et qui, justement, voit arriver ce maire-là et il se dit « Ouh, peut-être que ce n'est plus ici que nous allons nous sentir en sécurité. » Il y a beaucoup de Juifs qui quittent vers la Floride depuis quelques mois déjà. Hein, il y a beaucoup de Juifs dans l'immobilier. L'immobilier, c'est un sujet qu'attaque ou enfin qu'aborde Zoran Mamdani de façon assez soutenue. Il veut geler une partie des loyers. Donc, il y a dans la sociologie new-yorkaise, dans le profil démographique new-yorkais, une transformation majeure est en train de s'opérer. Ça a toujours été reconnu comme étant une ville un peu inaccessible. New York, c'est la ville des riches, la ville des multimillionnaires qui habitent en hauteur. Et là, on a quelqu'un qui arrive et qui dit, on va donner une parole à New York qui fourmille, New York qui vit la nuit. On verra bien ce que ça va donner.
Oui, en effet, ça va être à suivre les élections qui sont ce soir, justement, dans la grosse pomme new-yorkaise. Selon toi, il va passer, Mme Dany?
Bien, tous les sondages depuis l'été, le donnent gagnant. Donc, je ne sais pas comment on pourrait vraiment renverser la tendance. J'attire votre attention sur des soutiens qu'il a eus publiquement. Bon, il y a des gens qui disent que c'était un demi-soutien, mais Obama...
Ben oui!
S'est exprimé quand même sur cette élection-là.
Il a même dit, s'il veut des conseils, qu'il m'appelle.
Ben oui, tu sais, et le Parti démocrate traverse une crise en ce moment parce qu'il y a deux forces à l'intérieur du parti. Il y a une force qui est plus à gauche, imaginez-vous, donc à gauche dans la gauche,
gauche.
On pourrait dire une gauche radicale, c'est la gauche de Cortez. Et vous avez l'autre gauche, celle de Bernie Sanders, qui depuis des années dit que ce n'est pas une bonne idée pour les démocrates d'aller vers le wokisme, ça va leur faire perdre l'élection de 2024. On se rappelle ce qui est arrivé. Mm-hmm. Et là, ben, avec Obama qui s'en va vers Mamdani, on a l'impression que les démocrates ont choisi leur camp. S'ils l'emportent, par contre, ça va leur donner un bon vent, une bonne poussée. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas remporté quelque chose.
Oui, ça sera à suivre. D'ailleurs, Luc Laliberté, excellent chroniqueur en politique américaine, sera avec nous demain, 12h30, pour analyser ce résultat avec nous et d'autres résultats aux États-Unis. Rémi Villemur, toujours un plaisir. On se reparle jeudi aux alentours de 13h. Merci pour ta précieuse collaboration.
Bye-bye, bonne fin d'émission.
Salut, c'est Rémi Villemur, animateur au 99.5 que vous pouvez entendre avec nous à chaque mardi et jeudi aux alentours de 13h.
Moi, une chose que je surveille, Jeff, là-dedans, ouais. C'est vraiment l'utilisation des réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça me rend frileuse ces temps-ci. Puis ça me rendait frileuse, mais à rire un petit peu jaune quand nos ministres provinciaux ici à la CAQ utilisaient les réseaux sociaux, on les voyait danser, puis là, j'étais comme malaise. Il me semble que j'irais pas là, mais je comprends qu'il allait rejoindre des gens, mais est-ce qu'il allait rejoindre de façon efficace des gens? Là, ça, j'en doutais, puis même je défendais que non, là, bien souvent, parce qu'une danse va pas faire en sorte que tu vas aller chercher des votes.
Non,
là, ça
non,
te rend
non.
pas plus charismatique ou gentil.
En effet.
Aux yeux des gens, je pense, puis surtout si c'est pas super bien exécuté, mais... L'utilisation des réseaux sociaux, quand tu as un putsch comme ça, puis que tu vas aller scinder puis chercher juste ce que tu veux qu'il soit publié, c'est au même titre que n'importe quelle personne qui se dit être attrapée par quatre fiches. Toi, tu veux aller en date, Jeff, tu regardes les applications, la personne va avoir choisi ses meilleures photos, va avoir peut-être modifier la dite photo. Fait que tu vas arriver devant elle, puis tu vas dire, OK, ben ça me prenait un peu plus d'informations pour savoir si c'était mon genre. Mm-hmm. La montée des personnalités politiques sur les réseaux sociaux me dérange un peu plus par ça, parce que c'est pas tout le monde qui va aller plus loin.
C'est un peu plus superficiel, en effet.
Mais ça fonctionne.
Oui. On va parler avec quelqu'un de vrai, par exemple, après la pause. On va parler avec Hélanie Lepage, qui est la nouvelle conseillère municipale pour Saint-Roch-Saint-Sauveur, une jeune maman de 29 ans qui a fait campagne avec son petit gars de 2 ans. C'était beau à voir une jeune femme en politique. Donc, on parle avec elle immédiatement après cette courte pause à On en jase sur Boulevard 102.
Nouveau visage de Saint-Roch.
Oui.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. On va parler de ça, justement, de la revitalisation du beau quartier Saint-Roch. On en jase.